a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. Au micro de présentation, John Lyndon, Cheikh Thiero assure la production de cette émission. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Dans cette édition du vendredi 23 août 2019, nous parlons de l'esclavage. Cela fait 400 ans que les premiers esclaves africains sont arrivés aux États-Unis, marquant le début de plus de deux siècles d'esclavage en Amérique. Des millions de Noirs ont vécu dans les servitudes jusqu'à l'adoption du 13e amendement qui venait alors abolir l'esclavage en 1865. Mais le combat pour l'égalité et les droits civiques a continué pendant plusieurs décennies. Comment l'esclavage a-t-il marqué l'histoire des États-Unis? Quelles sont les séquelles de cet héritage? Quels progrès ont été réalisés? Une réparation est-elle possible? L'esclavage s'est-il métamorphosé? Quel héritage pour les Africains-Américains? Voilà des questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse grâce à la contribution de nos invités. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission en nous laissant vos commentaires sur Facebook. Vous pouvez également choisir de poser vos questions à nos invités en direct en appelant au 001-202-205-2633. Et comme invité, justement, ce soir, nous avons le professeur Jean-Germain Gros de l'Université de Missouri, ici aux États-Unis. Bonsoir, professeur.
Oui, bonsoir, bonsoir.
Merci d'être avec nous depuis Dakar, au Sénégal. Nous avons le professeur Boubacar Bouba Diop, professeur d'université, professeur d'histoire ancienne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur.
Allô, bonsoir, chers collègues.
Merci d'être parmi nous. Vous restez à l'écoute. Le temps pour nous d'accueillir notre troisième invité. Il s'agit du professeur Roger Benyongvi, professeur de lettres et ancien ministre de la Culture. Vous êtes à Cotonou, au Bénin. Bonsoir, Excellence.
Non, je ne suis pas à Cotonou au Bénin, je suis à Ouida, ville esclavagiste au temps du royaume d'Abomey.
Autant pour moi, j'avais cru que vous étiez à Cotonou. Cela dit, je vous...
Tout le monde n'est pas à Cotonou.
Bon, on a l'habitude des gens de Cotonou. Alors, restez avec nous, chers invités, le temps de suivre ce reportage que nous avons réalisé pour vous. Il y a donc 400 ans, les premiers Africains réduits en esclavage étaient débarqués aux États-Unis. Venant de la colonie portugaise d'Angola, ces captifs sont arrivés sur les côtes de la Virginie en 1619 à bord d'un navire de pirates anglais qui les avait saisis sur un navire négrier portugais. Environ 6 millions d'Africains réduits en esclavage venaient d'Angola et la plupart d'entre eux ont été envoyés dans les colonies portugaises. Certains se sont retrouvés en Amérique du Nord. Maïra de la Sellette et Betty Ayoub de VOA se sont rendus en Angola. Voici leur reportage rendu ici par Blanche Sanou.
À partir de la fin des années 1400, des négriers de l'actuel Angola ont pris part pendant des siècles au trafic transatlantique d'êtres humains. Selon les historiens, les Portugais ont emporté une grande partie des archives à leur départ de l'Angola après l'indépendance de ce pays en 1975. Januaro Silva travaille aux archives nationales de Luanda.
Vous avez le nom de l'esclave, le sexe, le lieu des naissances ou l'origine, l'âge, les marques d'identification, la profession. Et à la fin se trouvent des notes où nous pouvons voir la date de capture ou d'autres informations pertinentes.
Ces grands livres contiennent également des lettres et autres correspondances.
Celui-ci nous parle d'une situation impliquant des esclaves qui se sont enfouis avec l'aide ou la participation de certaines autorités traditionnelles.
Alors que certains chefs de tribu tiraient profit de l'approvisionnement des esclavagistes européens en captifs, d'autres dirigeants tentaient de protéger leur peuple. Parmi eux, Zinga Bandé, reine des royaumes de Dongo et de Matamba au XVIIe siècle. Guerrière et diplomate, celle-ci a repoussé les Portugais et les Néerlandais tout au long de son règne.
Elle était la plus grande protectrice de la souveraineté angolaise, et ce, durant 40 ans de combat, pour une femme du XVIIe siècle, et elle n'a pas été tuée. Elle se cachait dans ces îles flottantes de la rivière Kwanza, afin qu'ils ne puissent jamais la repérer. Elle a toujours résisté et toujours gagné.
Mais finalement, les marchands d'esclaves portugais ont triomphé. Ils avaient pris le contrôle de certaines parties de la région depuis 1482. En 1617, ils fondaient la ville portuaire de Benguela. Selon Paula Roussa, historienne et archéologue, cet édifice, aujourd'hui le Musée national d'archéologie de l'Angola, était jadis un lieu d'embarquement de milliers de captifs. Un passé douloureux, comme beaucoup d'autres habitants de Benguela, Roussa est une descendante d'esclaves.
Ma mère est morte. J'ai été élevée dans un orphelinat. Mais mes arrière-tantes m'ont dit, « Regarde, ton arrière-grand-mère a été envoyée à Recife, au Brésil. »
Sur près de 11 millions d'esclaves expédiés d'Afrique vers les Amériques, près de 6 millions provenaient de l'actuel Angola. Avant 1776, moins de 400 000 personnes avaient été envoyées dans les 13 colonies américaines. Selon les historiens, une infime fraction de celles-ci provenait de Benguela.
Nous avions beaucoup de touristes américains sur les bateaux de croisière qui accostaient ici et ils voulaient se rendre à cet endroit spécifique parce qu'ils disaient que leurs ancêtres étaient partis d'ici.
Des siècles de colonisation et d'esclavage ont marqué l'Angola, tout comme les dernières décennies de guerre civile. Aujourd'hui, le pays possède la troisième plus grande économie d'Afrique subsaharienne. Mais au moins un tiers de ses 30 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Et pour eux, les vendeuses angolaises, appelées Zungueira, représentent la reine Zinga d'Angola.
Elle est une résistante. Vous voyez la Zungueira en action tous les jours. Elle quitte la maison, achète des produits agricoles et les vend dans la rue. Elle rentre chez elle et paie les frais de scolarité de ses enfants, le loyer, la nourriture.
À l'instar de la reine Zinga, les Zungueira maintiennent le flambeau de femmes battantes pour la prospérité de l'Angola.
Voilà pour ce reportage rendu par Blanche Sanou. Retrouvons donc tout de suite nos invités. Commençons par le professeur Boubacar Bouba Diop. Vous êtes à Dakar, au Sénégal, un pays qui n'est pas étranger à l'esclavage. Quel jugement portez-vous sur cette pratique qui a tout de même duré plus de 200 ans?
Oui, alors je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous faites de m'associer à cette commémoration d'un événement douloureux. Merci aussi pour le service que vous nous rendez dans cet exercice qui consiste à revisiter notre mémoire collective. Quand vous m'avez appelé tout à l'heure, j'étais entre Dakar et Saint-Louis. Alors, c'est très intéressant parce que cette dernière phase, je dis bien cette dernière phase de l'esclavage, a laissé des traumatismes profonds parce que l'esclavage n'a pas commencé avec le système capitaliste dont vous avez parlé. De 1400, vous avez parlé de 1600 aussi, mais il faut dire que l'Afrique a subi donc des assauts bien avant donc la traite atlantique. Ça, je pense qu'on pourra y revenir. Quand vous m'avez appelé, je rentrais sur Dakar. Vous savez, le nom de Dakar signifie en wolof, l'ébou, la langue, ça signifie village de liberté. De Krao, c'est-à-dire Dakar, c'est un village de liberté contre l'esclavage et les monarques. Et ce n'est pas un fait isolé. Dans nos mémoires, il y a donc ce souvenir. Saint-Louis, dont je viens de parler, à 30 km, il y a un village qui s'appelle Rao. Rao, en wolof, ça signifie échapper. Ziguinchor, qui se trouve au sud du Sénégal, ça rappelle les cris dans une des étymologies qui est donnée du nom de la ville. C'est les cris que les esclaves donc prononçaient, vous avez parlé tout à l'heure des Portugais. Je rappelle que les Portugais sont venus là-bas avant les Français et donc les Anglais. Alors, c'est dire que donc c'est très important de revisiter et on a l'impression que la nouvelle génération oublie, et d'ailleurs nos États ne font pas l'effort pour rappeler cela, Saint-Louis, quand j'ai visité hier, j'étais à Saint-Louis, il y a une esclaverie, mais peu de gens connaissent. C'est une petite esclaverie qui se trouve entre les deux hôtels les plus célèbres, l'hôtel de la Poste, là où il y avait les Mermoz, vous savez, Saint-Exupéry. Aujourd'hui, quand on va visiter Saint-Louis, on va visiter l'hôtel de la Poste, l'hôtel de la Résidence, on oublie qu'il y a une petite esclaverie qui n'a pas la même dimension qu'au Gorée, mais personne parmi les jeunes ne sait que ça a été vraiment un entrepôt et qu'on transportait des esclaves. Alors, je pense que votre émission est très intéressante. Il faudra qu'on fasse le même effort. J'ai fait 2 ans aux États-Unis et quand j'ai discuté avec des camarades américains, Alabama, ils m'ont rappelé qu'Alabama, chez les Indiens, ça signifie ici, j'y reste, je ne vais pas continuer à reculer.
Voilà.
Donc, nous ne sommes pas les seuls à avoir subi ces traumatismes, mais chez nous, ça a été tellement profond que Walter Rodney a écrit le livre que vous connaissez très bien, j'imagine, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique.
C'est-à-dire
que la dernière traite, cette dite atlantique, a laissé des traces tellement profondes que l'Afrique a encore du mal à se relever.
L'esclavage
vers le Proche-Orient, l'Asie, c'est un élément dont il faut parler. Mais même le problème interne au niveau africain, je signale entre parenthèses que le mot esclave est un mot très ambigu dans notre langue. Et au Sénégal, le mot diam en wolof, qui signifie esclave, mais ma foi, si vous l'utilisez, parfois, si c'est au niveau familial, c'est très ambigu. Ça reste dans le cadre des échanges au niveau de la famille, des échanges de dons contre dons. Alors c'est tout à fait différent quand le système capitaliste arrive, quand l'argent arrive.
Et on va
donc
parler de tout
esclave,
cela.
Le mot esclave est un mot piège.
On va parler de tout cela. Oui, on va parler de tout cela dans la suite de l'émission. Le temps pour nous de donner la parole aux autres invités qui sont avec nous. Le professeur Jean-Germain Gros. Les États-Unis commémorent donc cette année le 400e anniversaire, on l'a dit, de l'arrivée des premiers esclaves noirs ici aux États-Unis. S'il reste vrai que l'esclavage a finalement été aboli plus de 200 ans après, est-ce qu'il n'y a pas comme un sentiment de culpabilité pour les grandes nations, notamment pour les États-Unis, d'avoir quand même pu mener une telle pratique? On parlerait aujourd'hui des crimes contre l'humanité, non?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. La traite et son corollaire, l'esclavage dans le Nouveau Monde a eu des effets dévastateurs sur l'Afrique et plus généralement les communautés de la diaspora africaine, dont les Africains américains, les pays de la Caraïbe, parmi lesquels Haïti, Cuba, la Jamaïque et consorts. Donc, la question doit être posée, et elle doit être posée de la manière suivante. Faut-il indemniser ceux qui ont été lésés par la traite des Noirs et l'esclavage? Et si oui, comment et par qui?
On avait justement cette question-là au programme, et puisque vous en parlez, alors faut-il des réparations?
Oui, donc la réponse est extrêmement difficile, de la mesure où nous parlons d'événements survenus il y a plusieurs siècles. Et il faut admettre également que certaines élites africaines ont joué un rôle assez important dans ces événements. Donc, la réparation, je préfère plutôt de parler d'indemnisation. Je suis pour, en principe, mais je pense que cela doit être fait avec rigueur et sans émotion. Je ne parle pas forcément d'une indemnisation monétaire, mais plutôt d'une indemnisation morale, accompagnée de mesures bien ciblées, ayant pour but de faciliter l'accès aux opportunités dans certains domaines très spécifiques, l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat et consorts. En bref, une forme de réparation qui permettrait aux descendants des victimes de la traite et de l'esclavage de se relever eux-mêmes par leur propre force et talent.
Voilà.
Cela évitera des problèmes de ressentiment de la part d'autres communautés.
Alors, merci professeur Jean-Germain Gros. Professeur Benyovi, si on continue de parler d'esclavage aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a quand même des séquelles de cette pratique qui sont restées dans la communauté africaine en Afrique et même au sein de la descendance africaine. Quelles peuvent être ces séquelles, selon vous? Qu'elles soient visibles ou pas?
Je vous ai précisé, lorsque vous me présentiez, que je n'étais pas à Cotonou, mais à 40 km de Cotonou, à Ouida, ville esclavagiste et qui renferme la route de l'esclave. Et pendant longtemps, j'ai parlé comme tout le monde. J'admire la facilité avec laquelle vous en parlez, vous et mes deux collègues. À Ouida, j'ai constaté que la question de l'esclavage, on se tait là-dessus. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi. Et nous sommes pleins de pudeur, nous sommes pleins de gêne à cause de ces séquelles-là. Parce que lorsque le roi d'Abomey, excusez-moi, je vais dire des choses qui ne se disent pas, faisait le commerce de gros, nous, à Ouida, par où devaient passer nécessairement les esclaves, nous faisions le commerce de détail. Et rares, je dis bien, rares sont les familles à Ouida qui ne finissent pas par vous avouer, professeur Brignovi, dans ce coin-là, il y avait toujours quelques esclaves que nous vendions. Il y a des familles dont le nom n'a strictement rien à voir avec l'esclavage, mais qui finissent, parce que vous avez un certain âge, vous avez une certaine notoriété, et que vous êtes curieux, par vous avouer qu'eux aussi, ils ont vendu. Moi qui vous parle, comme on dit chez nous, il se trouve, mon nom ne fait même pas Ouida, je n'appartiens à aucune grande famille, mais il se trouve que par ma mère, qui appartient à une grande famille, je suis descendant de vendeurs. Par mon père, qui est originaire de Kétou, je suis originaire de vendu. Bon, ce qui nous met, j'allais dire, dans une horde de situations. Alors, vous en parlez avec une certaine facilité. Nous avons décidé, nous, gens de l'élite, si mes collègues avaient été à Ouida, ils auraient fait la même démarche que moi-même et que le professeur que l'on connaît un peu dans le monde, qui s'appelle, pourquoi je dis son nom, nous avons initié la journée en 1990, la journée du repentir, de la marche du repentir à Ouida. Nous avons dit que tous les troisièmes dimanches de l'année, nous devons faire cette marche pour demander pardon aux esclaves.
Alors, je vous tiens.
Quelqu'un était vendu.
Voilà.
Nous ne savions pas que nous étions naïfs. C'était diviser la ville en plusieurs morceaux parce qu'il y a des vendeurs et des vendus. Nous étions en train, sans le savoir, d'accuser les nôtres, certains des nôtres.
Alors, vous parlez de pardon. Professeur Boubacar Diop, il y a non seulement la question de la réparation dont le professeur Jean-Germain Gros parlait tout à l'heure, mais aussi il y a ceux qui pensent que l'Occident, et d'ailleurs je vais vous poser la question, quel aura été le rôle de l'Europe notamment dans l'esclavage? Est-ce que l'Occident ne doit pas demander pardon à l'Afrique? Est-ce que ce ne sont pas là les étapes qu'il faut passer pour ouvrir le débat et rendre justice en quelque sorte, professeur?
Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a non seulement le fait qu'il faut mea culpa de la part de l'Europe, c'est très vague, c'est non seulement les États négriers, mais c'est aussi
fait
des institutions comme la papauté. Vous savez, il y a une théorisation.
L'Église, tout à fait.
Une bulle pontificale a justifié la traite des nègres parce que ces nègres étaient des enfants de Cam. La Bible a été falsifiée. Et il y a eu des interprétations. Ça a continué jusqu'au niveau de l'apartheid. Donc, non seulement il faudrait faire le mea culpa, mais il faut exorciser donc le mal, il faut les réparations, il faut effectivement articuler même au problème de la dette que les Africains continuent de payer. Tout à l'heure, on a parlé d'Haïti, mais ça continue aujourd'hui, il y a des dettes honteuses. Donc, tout cela est articulé, il faudrait une réforme du système des Nations Unies, beaucoup de courage. Je rappelle qu'à Durban, quand il y a eu la fameuse rencontre au début des années 2000 contre le racisme, mais certains chefs d'État africains étaient frileux et ne voulaient pas qu'on parle de réparation. Donc ces chefs d'État-là doivent aussi faire leur mea culpa. Ils
voilà.
ont complètement désarçonné certains groupes qui étaient là, très actifs, très combatifs. Et ces chefs d'État, à ce moment-là, ils lançaient leur népote. Ils avaient peur de parler de réparation.
Des réparations de l'esclavage. Alors,
donc je crois qu'il faut non seulement réparer, mais il faut faire le mea culpa, comme vous avez dit. J'ajoute que Mon collègue a tout à fait raison, il y a des choses qui sont taboues. Moi, je me rappelle, en 1997, j'étais fourvoyé des États-Unis quand j'ai fait à Syracuse une conférence sur les signards. Les signards, c'était quoi? C'était des femmes métisses africaines, donc qui étaient des maîtresses, des blancs. Ces femmes-là étaient des grandes capitalistes. Alors, les gens, et même mes collègues américains étaient surpris de voir ça. Je dis non, vous savez, les Africains, il y a eu des attitudes divisées. Il y a des gens qui sont battus, il y a des gens qui ont été des collaborateurs, voilà. des compradors. Et il faut que tout cela soit secoué et qu'on se retrouve pour un nouveau monde.
Pour un nouveau monde.
Et qu'il y ait des réparations aussi.
Et justement, je vais revenir au professeur Jean-Germain Gros. Pour qu'on n'oublie pas cet esclavage, on aurait peut-être souhaité que l'esclavage soit enseigné, n'est-ce pas, dans des universités, dans des écoles ici, mais on constate que on parle très peu de l'esclavage dans les programmes scolaires aux États-Unis. Il y a certes quelques chapitres superficiellement traités. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, vous savez que ici aux États-Unis, disons, je dirais que les dirigeants américains ont beaucoup de mal à trouver, disons, le langage approprié pour parler de leur passé. Donc moi, j'ai été à l'école aux États-Unis. Et bien, quand j'étais dans le lycée, et bien, on n'en parlait presque pas. J'ai connu cette histoire à partir de mes études primaires que j'ai faites en Haïti et ensuite à partir de mes études personnelles. Mais dans le lycée, on ne parlait presque pas de certaines choses.
Voilà.
C'est presque tabou. Donc alors, il faut considérer un changement profond dans le curriculum au niveau du lycée pour pouvoir enseigner aux étudiants américains leur vraie histoire et le rôle prépondérant qu'a joué la traite et l'esclavage dans cette histoire.
Alors, l'esclavage, un sujet très riche, large et enrichissant. Donc, on va prendre exceptionnellement un auditeur au téléphone. Il s'agit de Blaise. Blaise, bonsoir. En quelques secondes, votre réaction.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'aimerais juste m'atteler sur la question de l'esclavage, de ce qui maraude la tête. Je ne sais pas. Beaucoup plus on en parle de l'esclavage, je ne sais pas. Est-ce que l'Afrique en a quand même pu bénéficier de ce système qui en a vraiment su mettre au sous-développement, contribuer à son sous-développement?
Voilà, ça c'est une question qu'on avait également prévue. On a tellement de questions, mais pas de temps. Je vais poser la question au professeur Boubacar Diop. L'esclavage a quand même dépourvu l'Afrique de ses hommes, et même aujourd'hui, on constate que l'Afrique perd des intelligences. Quel aura été le rôle de l'esclavage dans l'appauvrissement de l'Afrique aujourd'hui? Il nous reste 1:30 et on va faire le tour de table.
Mais il y a eu d'abord le dépeuplement de l'Afrique. Mais vous savez, sur le plan démographique, l'Afrique a connu une saignée terrible. Or, une civilisation, c'est une concentration humaine complexe. L'Afrique a aussi été victime du terrorisme. Le terrorisme et les populations se sont déplacées. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ont même oublié le lieu d'origine. Si vous avez le nombre de villages tellement important, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, mais tout ça, c'est des séquelles de la colonisation. Des populations ont été terrorisées, les gens qui ne connaissaient pas la poudre à canon. Quand les canons et quand les fusils ont commencé, je signale au passage que le grand débat, c'est qu'il y a eu beaucoup de révoltes. Je rappelle vous bien, c'est le 9e siècle, c'était à Bagdad, le nombre d'esclaves noirs qui ont pris le pouvoir à Bagdad. À Bagdad, je ne dis pas en France ni en Amérique, à Bagdad.
Voilà, donc, en quelques secondes, chuté.
Le problème, c'est que les esclaves, des fois, le projet alternatif, souvent, c'est très difficile. Et les Africains sont en train de se rechercher encore. Et la lutte sera longue.
La lutte va continuer.
L'avenir est...
Professeur, pardonnez-moi, professeur Benyongvi, le mot de la fin pour vous?
Mais le mot de la fin pour moi, cher ami, ici, à Ouida, j'ai pris conscience d'une chose... Réparation, oui, il doit y avoir, mais l'Afrique doit être la première à demander pardon à l'Afrique. Parce que ceux qui sont allés nous demander de leur rendre des hommes sont
voilà. Merci.
Ceux qui ont accepté.
Merci beaucoup. Jean-Germain Gros, en 10 secondes, mot de la fin.
mot de la fin, eh bien, l'histoire est une histoire douloureuse, l'histoire de la traite, mais il y a eu quand même quelques victoires.
Merci. Professeur Boubacar Diop, en 10 secondes, mot de la fin.
Oui, en tout cas, félicitations. Je pense que l'Afrique va se relever. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faudrait que cette mémoire soit revisitée.
Voilà, on continuera à revisiter cette mémoire au cours des prochaines semaines. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse en compagnie d'Abdourahmane Dia pour les infos. Bonsoir.